France Inter, le 18-20.
On n'est pas les seuls à avoir des ambitions ambitieuses. D'autres sont même plus hardis que nous. Plus de voitures à essence en 2030, dit la Norvège, disent les Pays-Bas. L'Allemagne n'est pas loin, la Chine s'y met aussi. Nous, en France, la limite est fixée à 2040, 10 ans plus tôt pour la ville de Paris. Tout le monde y pense, tout le monde s'y met. Mais une vie sans essence, c'est plus d'électricité. Est-ce qu'on en a? Il faut du cobalt, il faut des batteries, il faut du lithium. L'idée, c'est moins de pollution ou moins de dépendance au pétrole. Le monde change. On avance, mais peut-on vraiment avancer sans essence? C'est le thème du Téléphone Sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès, le Téléphone Sonne.
Et c'est vous qui commencez, Robert, on est ravis de vous entendre, soyez le bienvenu sur France Inter.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous. Oui, vous avez presque tout dit déjà dans la présentation, mais voilà. Question simple et souvent occultée à mon avis. Le pétrole, il y en a encore probablement, à mon avis, pour longtemps, pour alimenter les moteurs thermiques, malgré la pollution. Mais qu'en est-il justement d'une perspective à long terme, des minerais, matériaux qu'il faudra trouver, extraire, exploiter pour construire ces moteurs électriques et ces batteries et autres composants, sans compter bien sûr là aussi une pollution engendrée. Et au lieu de diminuer le parc nucléaire, comme on l'entend dire par M. Hulot, ne faudra-t-il pas au contraire l'étendre pour faire face à cette future consommation électrique pour recharger ces fameuses batteries?
Merci beaucoup Robert. Beaucoup de questions dans la question de Robert, mais en même temps qui effectivement pointe sur beaucoup des problèmes qu'on devrait aborder d'ici à 2030 ou à 2040. Pour vous répondre, Robert, autour de la table ce soir, Jean-Pierre Cornu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint du cabinet de conseil SIA Partner, spécialiste de la mobilité. Jean-Claude Jancovici est là aussi.
Non, c'est Jean-Marc.
Jean-Marc, mais enfin, mais attendez, je vous montre que sur ma feuille, on a écrit Jean-Claude.
Ah oui, mais on l'a déjà fait un certain nombre de fois.
Jean-Marc Jancovici, vous êtes quand même ingénieur associé.
Et sur un malentendu, ça n'est pas passé.
Vous êtes toujours ingénieur associé de Carbone 4. Vous êtes toujours spécialiste du climat et de l'énergie. Ouais. Vous êtes toujours président de Shift Project.
Absolument.
Eh bien, écoutez, donc jusque-là, tout va bien. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question de Robert, sincèrement, effectivement, je l'ai cité à l'instant, du cobalt, du lithium d'abord, ça c'est pour les batteries. Il va falloir l'extraire, il va falloir aller le chercher. Est-ce qu'on sait où? Est-ce qu'on sait comment? Est-ce qu'on sait déjà que ce sera difficile à terme, Jean-Pierre Cornu?
On est loin de tout savoir. D'autant plus qu'on a démarré le véhicule électrique à grande échelle il y a seulement quelques années, puisque en 2010, simplement, il n'y avait pas de voiture électrique dans le monde.
Certes.
Il y avait eu quelques tentatives qui avaient avorté. Depuis 2011, on a des voitures électriques, très peu, 1,2% de la production mondiale de 2016. Mmh. Et donc, on découvre l'ampleur des problèmes, parce que il n'y a pas de miracle. Fabriquer une voiture électrique, c'est utiliser évidemment des matières premières, et pour la faire fonctionner, de l'électricité. Donc on a deux types de problèmes, les fabriquer en utilisant le moins de ressources possible, les faire rouler de façon la plus intelligente et la plus pertinente possible.
Mais en même temps, on a fait des projections, Monsieur Jancovici, j'imagine. On sait à peu près, puisqu'il faut que tout le monde passe à l'électrique à un moment, on sait combien ça va devoir nous coûter en extraction. Non, on sait tout ça.
Non, on ne sait absolument pas. Le monde politique, et vous êtes bien placé pour le savoir, fait toujours les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'abord, on fait une annonce et ensuite, on fait les règles de trois, éventuellement un jour peut-être, pour savoir si c'était un truc intelligent ou pas qu'on a annoncé. Donc non, ça n'a jamais marché dans le sens. Le monde n'est pas une entreprise. Donc il n'y a pas un chef à sa tête qui se dit « Ah, réfléchissons un peu, je vais faire des grandes données de cadrage et puis je vais voir si ce que j'annonce est intelligent. » C'est jamais comme ça que ça marche. Je voudrais revenir sur la question qui a été posée. Du pétrole, il y en a encore pour longtemps. Oui, ça dépend combien. Et en fait, il y a une
en
question...
En même temps, on nous répète depuis 50 ans qu'il n'y en a plus que pour 50 ans. Donc
non, on ne vous le répète pas. Enfin, ça dépend qui est-on. La question du pétrole, en fait, elle est lardée de tout un tas de malentendus. La première, c'est qu'on raisonne en années. Mais sauf que du pétrole, ça ne se mesure pas en années. Ça se mesure en litres, en tonnes, etc. Mais ça ne se mesure pas en années. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'extraction de pétrole, elle est condamnée à suivre, sur le plan mondial, une courbe en cloche, en gros. Parce que le pétrole est épuisable, parce qu'il faut 50 millions d'années pour en faire. Et donc, vous en avez pendant un temps de plus en plus, puis à un moment arrive, vous en avez de moins en moins. Et en fait, ce temps est assez proche. Là, il se trouve que la production mondiale, elle plafonne, en gros, masumeno, depuis une dizaine d'années. Et la quantité de pétrole qui est disponible pour les Européens, c'est-à-dire ce qu'on peut vraiment importer chez nous et produire en mer du Nord, ça fait 10 ans que ça décline.
D'accord. Hein ?
Et ce n'est pas un déclin qui a été voulu par les prédécesseurs de M. Hulot. C'est un déclin qui est subi pour des raisons physiques.
Donc ça veut dire que, pardon, mais au bout du compte, on en a encore pour combien de temps, nous, en pétrole en Europe? Est-ce que ça, on sait ou pas ?
L'humanité mourra avec du pétrole utilisable, mais à ce moment-là, beaucoup moins que celui qu'on a aujourd'hui tous les ans.
Et en même temps, la raison pour laquelle on parle de voitures électriques, c'est pas seulement parce qu'il faut simplement arrêter d'extraire du pétrole, c'est aussi pour d'autres raisons, pour d'écologie, de pollution, etc.
Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, 65% de l'électricité mondiale est faite avec du charbon et du gaz. Et donc, quand vous passez de la voiture à pétrole à la voiture électrique, en moyenne mondiale, vous n'avez strictement rien gagné sur le CO2.
Alors justement, on va rester sur l'énergie grâce à Bernard et sa question. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute. Vous êtes dans la lignée
de... Merci de prendre mon appel.
Je salue
vos invités, particulièrement Jean-Marc Jancovici, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et puis que j'ai lu tous ses bouquins, donc je suis à peu près dans la même logique. Oui, il ne faut pas surtout pas oublier de dire que le reste de la planète, ils vont faire des voitures électriques soit, mais ce seront des voitures électriques carbonées, puisqu'il n'y a que la France qui est capable de faire des voitures électriques non carbonées, en termes clairs. Hein. C'est ce que M. Jean-Marc Jancovici explique. C'est-à-dire que si on met le parc électrique à l'électricité, il faut construire des réacteurs tout de suite, sinon on n'y arrivera pas. Hein. Ce ne sont pas les éoliennes ni les panneaux solaires qui vont recharger les millions de voitures qui roulent tous les soirs sur nos routes et tous les matins pour aller au boulot.
Là aussi, merci pour votre question Bernard, voilà. Mais vous pouvez rester bien sûr, puisque Jean-Marc Jancovici, puisque Bernard semble-t-il vous connaît ou en tout cas vous a lu. Là aussi, est-ce qu'on a fait des projections? Est-ce qu'on sait qu'effectivement, lui, il dit ce chiffre, il dit qu'il faudrait construire 4 centrales nucléaires pour remplacer la moitié mettre de l'électricité dans la moitié des voitures françaises?
Alors moi j'ai fait...
En chiffres, ça dit quoi exactement?
Alors moi j'ai pas fait le calcul sur la moitié des véhicules, la moitié des voitures, moi j'ai fait un calcul, mais du même ordre, sur la totalité de ce qui roule en France. Voiture plus camion, plus utilitaire. Et en gros, si vous tenez compte du fait que le moteur électrique est plus efficace que le moteur à essence, mais que par ailleurs vous allez avoir des pertes au stockage, des pertes en transmission, etc., il faudrait augmenter la production électrique française d'un gros 30%. Si on voulait passer à l'électricité, oui. Tout ce qui roule au pétrole en France. En gros.
Jean-Pierre Cornu, vous avez l'air d'accord avec ce chiffre.
C'est vrai, mais le grand défaut de tous ces raisonnements de projection, c'est qu'on raisonne toutes choses étant égales par ailleurs.
C'est clair.
C'est-à-dire qu'on considère qu'on va
remplacer... Qu'il y aura autant de voitures et que chacun remplacera sa voiture, une essence pour une électrique.
Et ça, c'est là où il y a la faiblesse du raisonnement. Et il faut bien se dire qu'il y a une déformation de la demande en même temps qu'il y aura une déformation de l'offre et des comportements et de l'usage. Donc, quand on se projette sur le plus long terme, on peut effectivement considérer que l'avantage majeur de la voiture électrique, c'est dans l'usage, puisque c'est un véhicule qui ne pollue pas à l'utilisation. Et dans le cycle de vie, la voiture électrique va produire beaucoup moins de CO2 et beaucoup moins de nuisances.
Ça dépend comment on fait l'électricité.
Oui, mais beaucoup moins de nuisances sonores, des émissions sur le lieu de consommation, puisque c'est le problème des particules, le problème de l'oxyde d'azote. Et donc, le bilan en termes de confort global pour la population et pour la population qui habite en ville est considérable. Imaginez une ville comme Paris uniquement avec des véhicules électriques et des moyens de transport public électriques, la qualité de vie sera radicalement différente. Donc, faut voir qu'il y a une vraie attractivité au modèle du véhicule électrique. Bien sûr, tous les problèmes ne sont pas résolus.
Le paradoxe étant que une voiture électrique en ville, c'est plus facile parce qu'il y a des branchements, mais en ce moment, la ville essaye de vider de ses voitures, et pas seulement électriques, mais aussi c'est une autre manière de penser la ville, alors que le problème, semble-t-il, dans l'électrique, il est sur la longue distance, non, M. Jancovici, pour l'instant,
alors,
en tout cas.
En ville, en fait, c'est paradoxalement là que le problème est le plus simple à résoudre sans voiture du tout.
C'est pour ça, absolument.
En ville dense. Parce qu'après, il faut voir ce qu'on appelle une ville. Maintenant, la frontière entre la ville et la campagne est beaucoup moins nette qu'il y a un siècle. Il y a toute cette zone intermédiaire que les uns appellent banlieue, les autres zones de moyenne densité, etc. Et en fait, les gros problèmes de la mobilité du quotidien, c'est dans cette zone-là qu'il va falloir les traiter. Alors, que le problème soit sur la longue distance, oui et non, ça dépend si vous voulez rester propriétaire d'une voiture qui est un couteau suisse, c'est-à-dire avec laquelle vous pouvez à la fois partir en vacances avec la grand-mère, le canari et le chien, et aller au travail tous les jours, ou s'il y a une façon de différencier les usages et de différencier les flottes, mais avec souvent des problèmes d'usage de pointe, parce que les gens partent tous en vacances en même temps, donc c'est pas nécessairement facile de mutualiser autant qu'on aimerait. Donc c'est tout ça.
C'est compliqué de dépanner une voiture électrique, de venir avec un stock d'électricité, surtout s'ils sont plusieurs. Pardon, allez-y.
Voilà, puis après, il y a des débats techniques. Alors, c'est pas la peine de les mener aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué, mais ça dépend aussi si vous arrivez à recharger rapidement ou pas rapidement votre batterie quand vous êtes en train de vous déplacer, si vous pouvez faire un échange standard. C'est-à-dire, vous arrivez avec une batterie vide, crac, vous la laissez à la station service, vous repartez avec une batterie pleine. Il y a eu des expériences de cette nature. Donc, et tout ça, effectivement, ça va, il y a des choses dont on sait avec des raisonnements un peu rustiques qu'on n'y arrivera jamais. Grosso modo, à 7 milliards de bons hommes, on sait qu'on n'y arrivera jamais. Et puis, il y a des choses pour lesquelles c'est des points d'interrogation.
Et il y a des choses qui se mettront en place, non, au fil de l'usage aussi, qu'on en fera peut-être, non?
Oui, alors, ce qui est intéressant dans cette problématique, c'est qu'on raisonne voiture, c'est une solution. Mais c'est quoi le problème? Il faut raisonner mobilité. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans le raisonnement, et c'est là où justement il doit y avoir un débat collectif, parce que la mobilité, elle est induite par des tas de choses. Le titre du Monde d'aujourd'hui, c'est la crise du modèle français des hypermarchés. Qu'est-ce que c'est un hypermarché? C'est le produit de l'automobile. On a fait des hypermarchés...
Et des camions.
Et des camions. On a fait des hypermarchés pour projeter en dehors des centres-villes un lieu de consommation mythique où les gens allaient en voiture. Quand on regarde les premières images du Carrefour, c'était un parking avant toute chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On revient vers les centres-villes avec un autre format de magasin beaucoup plus proche, ou on revient avec de l'Amazon. Donc, on voit bien qu'il y a une relation intime entre la sociologie et l'organisation de la vie, et de la ville, et le moyen de transport. C'est ce que les spécialistes appellent le système socio-technique. Mais on sent bien qu'avec les composants que l'on met en œuvre, on va avoir une nouvelle combinatoire.
Alors, on va prendre un nouvel appel au standard. Juste une dernière question là-dessus, Monsieur Gorniou. Qui va trop vite ou pas assez vite? Est-ce que tous ces changements vont bien ensemble? C'est-à-dire, si on quitte le supermarché, comme vous dites, effectivement, et qu'on se rapproche de la ville, est-ce que dans le même temps, le moment où on change notre mobilité est à peu près concomitant? C'est-à-dire, est-ce que ça va bien se passer pour nous deux, ou est-ce qu'il y aura un moment où tout ça va se croiser et ça deviendra extrêmement compliqué pour tout le monde?
Comme l'a dit Jean-Marc, il n'y a pas de grand architecte. Donc, on a des problèmes qui sont le résultat de nos micro-décisions. Nous, citoyens, consommateurs, producteurs, salariés, on va prendre des décisions. Et c'est la somme de décisions qui va faire le problème collectif.
Allez, puisqu'on parlait de préparation, justement, Marc nous attend au 01 45 24 7000. Marc, bonsoir et soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bonsoir tout le monde. Donc, je posais justement la question sur le niveau de préparation technique des différents intervenants et différentes filières qu'il va falloir mettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on nous a annoncé politiquement quelque chose, mais il n'y a rien derrière.
Alors, rien derrière du tout, Marc.
C'est les spécialistes, les ingénieurs, le savoir, les écoles qui commencent à préparer les gens à ces types de transports, etc., etc.
Alors, une chose après l'autre, merci pour votre question, Marc, et merci pour votre écoute attentive. Marc Jancovici, est-ce qu'on est prêt, par exemple, l'industrie automobile? Oui ou non?
Ça dépend ce que vous appelez « on » et ça dépend ce que vous appelez l'industrie automobile.
Les gens qui fabriquent des voitures.
Non, mais ce n'est pas monolithique. Dit autrement, à nouveau, l'industrie automobile, ce n'est pas une entreprise détenue, enfin, ou pilotée par une personne. C'est un jeu d'acteurs. Donc, est-ce qu'au sein de l'ensemble des industriels qui s'intéressent à l'automobile, les gens sont prêts? Ça dépend.
De toute façon, moi, j'ai un chiffre qui dit qu'un tiers des investissements, en gros, désormais, sont liés à l'électrique quand on fabricant automobile aujourd'hui.
Je le redis, ça dépend prêt à quoi. Vous avez des gens que ça perturbe plus que d'autres quand vous changez de type de motorisation. Vous avez des équipementiers qui sont ravis, des équipementiers qui ne sont pas ravis du tout, des constructeurs qui sont ravis, des constructeurs qui ne sont pas ravis du tout. Donc, ça dépend vraiment des acteurs que vous avez en face de vous. Maintenant, si la question est-ce qu'on est prêt à fournir 30 millions de véhicules électriques aux Français,
par exemple,
pesant toujours 1,5 tonne et devant rouler 13 000 km par an, là, je vous dis non, et on n'y sera jamais.
Mais pas demain, en même temps, c'est pas pour
jamais.
Demain.
Jamais.
Oui. Jamais, pourquoi jamais?
Jamais. Parce que les acteurs de la construction sont des acteurs mondiaux. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous dire la France est un village gaulois dans lequel on va avoir 30 millions de véhicules électriques et puis en dehors, ça sera business as usual. Donc, en fait, si la France est 30 millions de véhicules électriques, ça veut dire qu'en dehors, l'essentiel des véhicules sont devenus électriques aussi. Donc, en fait, 30 millions de véhicules en France, ça veut dire 1 milliard de voitures électriques dans le monde. Et là, vous faites les comptes sur les appels de puissance qui sont nécessaires pour recharger les batteries, la quantité de matériaux qu'il faut pour avoir une flotte de 1 milliard de batteries en état de fonctionner en permanence, etc., etc. Et là, je peux vous assurer que je parie toutes mes économies contre qui veut sur le fait qu'en 2040 ou en 2050, on n'y est pas de manière absolument certaine.
Jean-Pierre Cornu, vous prenez le pari et vous prenez toutes les économies de Jean-Marc Jancovici?
Non, moi je serais moins...
Tu parles d'un milliard de voitures.
Ouais, ouais. Un milliard de voitures électriques, ça va prendre du temps de toute façon, parce qu'on a déjà un stock de, en gros, 1,3 milliard de voitures qui sont à 99%, même plus, thermiques. Mm-hmm. Donc, ce stock de voitures, il va s'écouler, hein. Donc, on est parti pour avoir encore des voitures thermiques pendant de très nombreuses années. Fabriquer des voitures électriques, on saura probablement le faire. C'est pas compliqué, une voiture électrique. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Mmh. C'est qu'une voiture thermique, c'est au sens strict du terme, une usine à gaz. Et on a rajouté des tas d'accessoires qui l'alourdissent, qui la rendent compliquée et qui la rendent la maintenance très difficile. D'où le Dieselgate et tout cela. Une voiture électrique, on sait faire des moteurs électriques depuis un siècle. Un moteur électrique, c'est banal. C'est un bobinage et c'est un truc qui est d'une fiabilité absolue. En revanche, mettre des moteurs électriques dans les voitures telles qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est absurde. Il faut repenser la voiture et donc repenser notamment le fait que toutes les bagnoles aujourd'hui sont conçues pour rouler à 200 km/h et pour subir un crash à 50 km/h en laissant intacts ses passagers. Aujourd'hui, ce modèle-là, avec des voitures en moyenne à 1,4 tonne, et une motorisation électrique est inappropriée. Donc, il faut repenser le modèle de voiture.
Et ça, c'est pas encore gagné. Marc, vous vouliez réintervenir, et vous avez le droit, on vous écoute, Marc.
Tout à fait dans le sens des derniers propos. Je m'imagine pas un camion de 44 tonnes roulant à 130 km/h aller frapper une voiture de 500 kilos en plastique.
Alors bon, on va essayer d'imaginer que le camion ne va pas essayer d'aller frapper la voiture, mais la bonne question, tiens, elle rejoint celle de Gilles qu'on va entendre aussi à votre suite. Marc, bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, et finalement vous êtes à peu près dans le même genre de questionnement que Marc. Qu'est-ce qu'on fait des poids lourds et du reste ?
Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait des poids lourds qui roulent et qui traversent la France, pour ne parler que de la France, bien entendu, par centaines de milliers. Je roule beaucoup, donc je vois tout ça et je suis assez effaré. Des avions, de plus en plus nombreux, et aussi des super transporteurs maritimes qui brûlent du fioul lourd. Et qui, alors là, évidemment, ils sont pas en ville, hein, mais on les voit pas, mais ils polluent comme quelques milliers de voitures pour un seul. Alors voilà, j'aimerais savoir ce que l'on va faire de tout cela.
Et merci pour votre question, Gilles. Deux questions en une, celle de Marc et celle de Gilles. Jean-Pierre Cournou, d'abord celle de Marc, effectivement. Si on change les modèles des voitures, s'il faut tout repenser, y compris notre philosophie, comment on fait effectivement avec les camions? Est-ce que ça risque pas de devenir dangereux d'être voiture sur la route? C'est un peu le sens de la question.
Vous savez,
de Marc.
C'est une escalade. On a fait des voitures puissantes, rapides, qui roulent en moyenne à 35 km/h, en réalité, hein, dans la vraie vie. Tout simplement parce que c'est la voiture couteau suisse. C'est la voiture qui va vous permettre d'aller acheter votre pain ou chercher vos enfants à l'école et qui va vous emmener à 1000 km en vacances. C'est ça qui a été le grand succès de l'économie automobile du XXe siècle. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a plusieurs types de réponses à plusieurs types d'usages. Le premier type de réponse, c'est la circulation urbaine, périurbaine, ou même en zone rurale, où la voiture électrique est tout à fait appropriée, parce que la recharge se fait à domicile, dans son garage, et pose pas tellement de problèmes de charge. Le transport de marchandises, par exemple, aujourd'hui, a été conçu, notamment en France, autour du poids lourd individuel. Il faut réimaginer des modes de transport, notamment le ferroutage. Vous allez dans la Suisse voisine, vous ne voyez pas de poids lourds. Les poids lourds prennent le train. Quand on fait du nord-sud entre l'Italie et l'Allemagne, à travers la Suisse, on prend le train. Il faut remettre sur la table le problème du ferroutage, qui est une vraie réponse globale, sociétale, à la fois à la pollution et à la dangerosité du transport par poids lourd.
Jean-Marc Jancovici, quand Gilles dit « oui, non mais très bien, effectivement, qu'est-ce qu'on fait des poids lourds, qu'est-ce qu'on fait des avions, qu'est-ce qu'on fait des bateaux, qu'est-ce qu'on fait de tout ça si on supprime le carburant fossile ?» C'est une bonne question.
On en fera moins. De manière absolument évidente. Il y a une caractéristique physique du pétrole qu'il faut quand même rappeler, c'est que dans un litre de pétrole qui pèse un peu moins d'un kilo, vous avez 10 kWh d'énergie. Pour transporter la même quantité d'énergie avec des batteries lithium-ion un peu performantes, il vous faut 30 kg de masse. Ouais. 30 kg contre moins d'un kilo. C'est la raison pour laquelle la voiture à pétrole s'est imposée au début de l'automobile, alors qu'on a su faire une voiture électrique au même moment que les débuts du moteur à combustion. Voilà, au début du moteur à combustion interne et les débuts de la voiture électrique, c'est même pareil, hein, c'est la même date. Sauf que, comme le transport consiste à emporter son énergie avec soi, sauf quand vous êtes dans un train ou un trolleybus, eh bien, on a donné l'avantage au mode de transport de l'énergie qui était le plus dense par unité de volume. Et là, le pétrole a gagné et jamais vous ne ferez un super tanker, ou plus exactement un porte-conteneur, à l'électricité, capable de parcourir 10 000 km avec des batteries. Ça n'existe
pas. C'est peut-être pas le but, hein.
Non, mais c'est un objet que vous ne verrez jamais. Non, mais voilà. Et l'avion électrique, il en existe un. C'est celui de Monsieur Picard.
Oui, oui. C'est un très bel objet, mais qui pour l'instant ne transporte personne.
Et le ticket d'avion est à 10 millions d'euros. Donc, le billet d'avion est à 10 millions d'euros. Donc, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais à cause des propriétés physiques du pétrole qui sont irremplaçables.
Et disons qu'on ne le verra pas de notre vivant.
Mais vous ne le verrez jamais. Au niveau des flux qu'on a créés aujourd'hui, vous ne le verrez jamais pour des raisons physiques. Ça, en gros, il faut bien voir que jusqu'au pétrole, les hommes ont passé leur temps à remplacer une énergie par une énergie meilleure en termes de caractéristiques physiques. Depuis le pétrole, on cherche à faire l'inverse. Et on ne conservera pas les flux auxquels on est habitué aujourd'hui en faisant l'inverse. Ça sera juste impossible.
Une question sur franceinter.fr, elle nous vient de Ludovic. Et Ludovic nous dit « Je pense que c'est une hérésie par rapport aux besoins énergétiques que cela va demander. Il y a peut-être une autre alternative comme le moteur hydrogène. Il y a la voiture à air comprimé aussi, mais qui ne se commercialise pas. Est-ce qu'on peut imaginer l'hydrogène, l'air comprimé, Jean-Pierre Corniou ? Pas de demain, mais à terme.
Non, mais même aujourd'hui, moi j'ai conduit une voiture à hydrogène, hein, ça existe. Il y en a dans Paris, et vous avez une station de recharge au pont de l'Alma. Donc l'hydrogène, on sait très bien le faire, puisque c'est une voiture électrique. Au lieu de transporter des batteries, on transporte 3 kilos d'hydrogène. On sait le faire. Le seul problème, c'est que l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel, il faut le fabriquer. Et comment on le fabrique ? Avec de l'énergie. On revient au problème précédent.
On se mord la
queue. Le gaz comprimé, c'est pire encore. Parce que le gaz comprimé, c'est effectivement de l'énergie, mais c'est de l'énergie qu'on a fabriquée avec des outils avec très faible rendement. Et on met ça dans une voiture et ça dure très peu de temps. Peugeot, PSA s'y étaient essayés et ils ont abandonné parce que c'était une idée absurde. Non, le vrai problème, c'est que chaque fois qu'on bouge un atome de matière, il faut de l'énergie. Or, cette énergie, elle n'existe à l'état naturel que sous une forme. Une seule, c'est l'énergie solaire. Alors la difficulté majeure, et la réponse fondamentale, c'est de transformer toute l'énergie solaire que reçoit la planète en énergie utilisable pour se déplacer, se chauffer, s'éclairer. La problématique, elle est là. Alors, évidemment, on peut continuer à creuser la Terre, qui est un réservoir, hein, pour essayer de faire des trouvailles miraculeuses. On y arrivera probablement pour un certain temps. L'idée du schiste est complètement absurde, parce qu'il faut casser ce que la nature n'a pas fait, donc beaucoup d'énergie pour fabriquer de l'essence ou du pétrole ou du gaz à partir de schistes bitumineux, on n'échappe pas à ce problème. Donc on a deux problèmes qu'il faut résoudre. On a un problème de la légitimité de la mobilité, de transporter des atomes physiques plutôt que de l'information, et il y a un champ considérable de réflexion autour du télétravail, autour d'une nouvelle manière d'être ensemble, mais sans se déplacer physiquement. Et il y a un deuxième champ de réflexion qui est la captation de l'énergie solaire de façon intelligente pour alimenter les voitures ou d'autres éléments consommateurs d'énergie.
Et en attendant d'en être à l'énergie solaire, une question qui nous vient de Christophe. Bonsoir Christophe, soyez le bienvenu sur Inter, on vous écoute.
Bonsoir Fabienne, merci de prendre ma question. J'aurais voulu faire un petit témoignage très rapide. Au milieu des années 90, j'ai vécu comme tout le monde l'arrivée des moteurs diesel HDI. Et là, j'ai commencé à avoir des laryngites à répétition qui ont disparu quand j'ai utilisé le circuit d'air fermé. Donc j'ai été très attentif à ces problèmes-là et je considère un peu être un précurseur. Je roule depuis 2 ans en voiture électrique. Sur Paris, c'est génial, c'est silencieux, vous n'avez pas de vibration. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Et je me pose des questions quand je vois que la ville de Paris reporte un peu de 4 ans l'interdiction du diesel. Donc je me demande quel est le poids des lobbies. Et je me dis que les constructeurs sont très en retard en France. Et que certains disent que la France va trop vite ou Paris va trop vite. Et en fait, on n'est même pas capable de s'aligner sur l'Inde. Donc je voulais un peu l'avis de vos intervenants sur ce sujet.
Et on va leur demander, merci beaucoup pour votre question Christophe, on leur demande leur avis. Jean-Marc Jancovici sur ce que vient de dire Christophe. D'abord on est très en retard, comme il le dit lui-même, en tout cas y compris par rapport à d'autres, même dans des pays comme l'Inde.
Sur la voiture électrique
Par exemple.
Alors ça dépasse ma compétence. Je ne sais pas si on est très en retard en termes de... Enfin, ça a été dit tout à l'heure. Globalement, de toute façon, les ventes de véhicules électriques, ça représente l'épaisseur du trait un peu partout dans le monde, aujourd'hui encore. Hein.
Est-ce que ces fameux 4 ans, 2020-2024, finalement, pour le diesel,
il faut bien voir que la lecture
de Christophe, c'est de dire, attention, lobby.
Il y a quand même un point. On mélange souvent, quand on parle de voitures électriques, deux problèmes qui sont des problèmes un peu différents. On mélange un problème de dépendance au pétrole, qui est un problème de nature d'énergie, qui contribue au changement climatique. On rappelle qu'il y a un petit machin qui s'appelle l'accord de Paris, qu'on a signé par ailleurs, et un problème de pollution locale que la voiture électrique résout ou pas en fonction de la manière dont on fait l'électricité. Parce que je rappelle encore une fois que si on fait l'électricité au charbon, ou pire encore, comme les Allemands, au lignite, de la pollution locale, vous en avez autant que vous voulez à côté de la centrale à charbon. Vous avez des particules comme vous voulez, des destructions d'écosystèmes, des oxydes d'azote tant que vous voulez, enfin vous avez tout, c'est tout le cocktail. Hein. Bon. Juste, c'est pas au même endroit. Voilà. Mais quand vous avez un bel anticyclone, ça finit par arriver chez nous. Donc c'est deux sujets qu'on mélange volontiers. La raison pour laquelle Madame Hidalgo s'intéresse à la voiture électrique, c'est pas la première. Madame Hidalgo, enfin, je ne pense que c'est pas lui faire insulte de dire que la balance commerciale de la France et la dépendance
de l'importation de pétrole,
c'est pas vraiment son premier problème. Donc elle est sur le deuxième sujet. Alors, sur le deuxième sujet, il n'y a pas que la voiture électrique. Hein. Vous pouvez faire des bus électriques, vous pouvez faire des vélos, vous pouvez faire marcher les gens à pied. Ils peuvent prendre le métro. Il y a un cocktail à envisager. Et je voudrais finir en disant qu'on a trop souvent, en France, qui est un pays qui adore le blanc et le noir, tendance à raisonner avec... c'est tout bon ou tout mauvais, c'est tout l'un ou tout l'autre, etc. En fait, ce dont on a besoin, on prononçait le mot tout à l'heure, c'est d'architectes. C'est-à-dire, c'est des gens qui disent, je vais faire un peu plus de ça, un peu moins de ça, etc. Je vais y aller à telle vitesse et je vais essayer de réfléchir à un optimum pour la collectivité. Parce que ce que les uns gagnent, les autres le perdent. En général, il y a toujours une forme d'équilibre à trouver.
Jean-Pierre Cornou, est-ce qu'on a quelques chiffres? Est-ce qu'on sait dans des pays, par exemple, qui sont beaucoup plus électriques que nous le sommes, comme par exemple la Norvège, est-ce qu'on peut dire, ah ben voilà, eux, ils l'ont fait, ça marche très bien, et voici ce que ça donne en termes, par exemple, de pollution, puisqu'on était en train de parler de pollution à l'instant sur la ville de Paris. Est-ce qu'on peut dire, c'est du simple double, donc c'est génial?
Alors,
est-ce qu'on est capable?
Pour répondre à la question, il faut d'abord dire que la France est, avant la Norvège, le premier pays en termes d'achat de véhicules électriques. On les subventionne un peu, alors que les Norvégiens les subventionnent massivement.
Les subventionnaient d'ailleurs, parce qu'ils sont peut-être en train de revenir en arrière, parce que ça leur coûte extrêmement cher.
J'avais défini un montant maximum de véhicules, 50 000, je crois, à partir duquel ils arrêtaient de subventionner. Néanmoins, ils taxent considérablement à l'importation, ils ne sont pas dans l'Union Européenne, ils peuvent le faire, les voitures, notamment les voitures allemandes, les grosses berlines, ce qui fait qu'ils coûtent moins cher, ça coûte moins cher d'acheter une Tesla à Oslo que d'acheter une Audi A3.
Mais alors concrètement, en termes de pollution, est-ce qu'on peut dire, Oslo, la pollution est totalement diminuée?
C'est vrai, c'est considérablement diminué, mais pas que par la voiture. Parce qu'ils ont privilégié toute une série de moyens, ils ont privilégié le vélo, les vélos électriques. Alors, on parle beaucoup de voitures, mais on ne parle pas des deux roues à moteur. Or, c'est un champ considérable de progrès. Vous vous promenez dans voiture, dans Paris, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, la pollution des deux roues électriques, des deux roues à moteur, est beaucoup plus importante que celle des voitures à moteur. Et là, vous allez à Shanghai, il n'y a pas un seul engin, deux roues, qui ne soit pas électrique. Donc, il y a aussi des manières pragmatiques et complémentaires de prendre le problème. Oslo, c'est une politique globale, c'est une politique systémique dans un pays de plus petite taille que nous en population et qui peut le faire. Nous, on aborde le problème, et je suis d'accord avec Jean-Marc, de façon très monolithique. Plus de voitures diesel, plus de voitures électriques. Néanmoins, il faut penser globalement une solution.
Mais alors, attendez,
c'est ça l'intérêt de la recherche.
Et est-ce qu'on peut parler un peu d'argent quand même? Est-ce que dans ces échéances-là, c'est-à-dire 2030-2040, on peut imaginer que la voiture électrique ou le deux roues électriques, pourquoi pas, seront deux fois moins chers qu'ils le sont aujourd'hui? Parce que ce qui est rédhibitoire aujourd'hui, c'est ça aussi. Oui. Ça coûte extrêmement cher une voiture électrique aujourd'hui.
Oui, ça dépend de... Vous avez deux phénomènes qui s'opposent pour savoir comment vont évoluer les coûts. Vous avez un premier phénomène qui est l'apprentissage, qui en général fait baisser les coûts, dans tout domaine. Et puis après, vous pouvez avoir un deuxième processus qui s'y oppose, c'est une contrainte sur les ressources. Si par exemple, à un moment, vous vous rendez compte qu'on commence à être un peu short sur le cobalt, sur le praséodyme, etc., à ce moment, vous pouvez avoir l'effet de rareté qui s'applique dans l'autre sens. Et se projeter sur des coûts à 20 ou 25 ans en conjuguant les deux effets, c'est un exercice un peu périlleux.
Des volumes qu'on ne connaît pas.
C'est un exercice un peu périlleux. Donc c'est facile de comprendre ce qui pousse dans un sens et ce qui pousse dans l'autre. Pour avoir une réponse définitive, il faut être beaucoup plus prudent, à mon sens.
Allez, on va prendre Émile qui nous attend au 01 45 24 7000. Émile, soyez le bienvenu.
C'est pas normal, il y a que des hommes qui parlent de voiture.
Oui, bonsoir.
Ah bah tout à l'heure, on aura une femme. Tiens, Cachou, restez avec nous. Je sais que vous avez appelé, vous serez la prochaine puisqu'on veut absolument entendre des femmes. Émile, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je me pose la question, et à vrai dire, je pense avoir un peu la réponse. Est-ce que la question de se dire on va passer à la voiture électrique, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que le problème de base, c'est pas l'énergie qu'on met dans la voiture, c'est simplement le problème de la voiture individuelle, qui, quelle que soit l'énergie qu'on met dedans, est de toute façon trop énergivore. Et donc la solution, c'est de développer les transports en commun, de développer les modes de déplacement doux, à savoir se déplacer à pied, se déplacer à vélo, et voilà. Et donc, on voit bien qu'avec la voiture électrique, de toute façon, on va avoir des soucis de minerais, on va avoir des soucis de ressources en tout genre. Et donc, le problème n'est pas résolu avec la voiture électrique. Le problème, c'est la voiture individuelle.
Merci pour votre question, Émile. Alors, j'entends d'ici les gens qui nous écoutent et ceux qui n'habitent pas près de leur lieu de travail, ceux qui livrent, etc. Mais la question d'Émile est bonne, et c'est un peu ce que vous disiez aussi, Jean-Pierre Cornioux. Il y a beaucoup de choses à repenser de manière extrêmement globale dans la ville telle qu'elle sera en 2030 et en 2040. Et ça passe forcément par les transports en commun à un moment.
Bien sûr. Les transports en commun, ça fonctionne extrêmement bien. Vous savez qu'il y a 48 villes en France qui ont des tramways. Les tramways ont une attractivité considérable et réhabilitent justement la ville, parce que quand on met un tramway, on a une qualité de vie autour bien plus grande. Ça passe aussi par l'amélioration fonctionnelle des métros. Vous prenez les métros récents comme la ligne 14 à Paris, pardon pour les non-parisiens, mais c'est vrai aussi en province, c'est très confortable et très agréable. Donc, repenser la politique de mobilité, c'est prendre en compte l'ensemble de ces facteurs de confort, d'aménité, de réponse à tous les problèmes des individus, les personnes à mobilité réduite, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on aura besoin de voitures individuelles pour des gens qui ont des gros problèmes de mobilité. Il faudra trouver des solutions. Et donc, vous voyez, c'est une politique globale qu'il faut imaginer, qu'il faut repenser. On en a l'opportunité, on a du temps. 2040, c'est loin. Donc, il faut travailler. Et il faut travailler en concertation.
Eh bien, tiens, cette question qui nous vient de Guillaume sur franceinter.fr. Pour moi, l'énergie qui pollue le moins, c'est celle qu'on n'utilise pas. Je réfute la voiture vide. Est-ce qu'il n'a pas raison, Guillaume, de réfuter la voiture vide? Comment se fait-il qu'il n'existe pas encore, Jean-Marc Jancovici, dans nos villes à nous, ce qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire des routes entières réservées au covoiturage, où les voitures avec une seule personne dedans n'ont pas le droit de circuler?
Je ne suis pas sûr que les États-Unis puissent être facilement érigés en modèle de sobriété énergétique.
Sur ce point-là, vous avez bien raison. Mais sur ce point-là, il y a les fameux diamants sur la route, ça existe.
Ils conduisent par ailleurs des voitures qui consomment deux fois plus. Bref. Pour en venir à la question, il y a quand même la situation de départ à avoir en tête. Aujourd'hui, en Île-de-France, je prends l'exemple de l'Île-de-France, vous avez 2 millions de Parisiens intramuros et vous avez pas loin de 10 millions, 8, de Franciliens, dont 85% effectuent leur mobilité du quotidien en voiture. Parce que quand vous êtes magasinier dans une grande surface et que vous avez votre job à 20 km de chez vous,
à 5 heures du matin,
vous n'allez pas dire « Monsieur, j'ai trouvé un job, mais non merci, j'y vais pas parce que je prendrai ma voiture et que ça pue, ça pollue. » Pas une seconde. Donc il faut bien comprendre, et de même que vous n'allez pas choisir l'établissement pour vos enfants en fonction de la distance à faire en voiture, vous allez choisir en fonction de ce que vous croyez leur assurer, leurs meilleures chances de réussite dans la vie, etc. Donc en fait, il faut bien comprendre que la voiture, elle s'insère dans un urbanisme qui a été pensé par et pour la voiture. C'est, je le redis, tout ce qui est sorti, pour prendre l'exemple de Paris, des limites du périphérique, c'est-à-dire un endroit où on peut très bien vivre sans voiture. Il y a un siècle à Paris, vous viviez sans voiture, sans aucun problème. Vous avez les halles où la voiture vous amène. Mais non, les halles... Non, vous pouvez vivre sans voiture sans aucun problème.
Moi je vis sans voiture. Mais enfin, les gens qui vous entendent dire qu'il y a un siècle, vous pouvez le faire, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Je les entends crier d'ici là.
Parce que même dans Paris intramuros, si vous n'en sortez pas aujourd'hui, vous pouvez vivre sans voiture. Il n'y a pas de problème. Vous avez la nourriture arrive, vous pouvez tout trouver à pied, etc. Bon. Sauf que quand vous habitez à 30 km du centre de Paris, la situation devient très différente. Et soit dit en passant, il y a un rapport entre ceci et cela. Je vous rappelle que le vote Front National est maximum à 40 km du centre des grandes villes de manière constante depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis le premier choc pétrolier. Et il y a un lien entre les deux.
Entre le vote Front National et le fait d'utiliser sa voiture ?
Non, et le fait d'être à une grande distance de la ville, du centre-ville. Okay. Parce que quand vous êtes à grande distance du centre-ville, vous êtes toujours dans l'aire économique urbaine. Donc vous avez toujours un emploi de type urbain, sauf que vous êtes dans un tissu qui est très lâche au point de vue de la densité. Donc vous avez besoin de beaucoup vous déplacer pour accéder à tous les services, y compris l'emploi, mais aussi l'école, le machin, etc. Et quand arrive une contrainte énergétique comme celle qu'on vit en Europe de manière dure, enfin de manière molle depuis les premiers chocs pétroliers et de manière dure depuis 10 ans, à ce moment, c'est dans cette zone en particulier que la contrainte physique devient maximale. Donc et à ce moment, les gens votent avec leurs pieds.
Allez, je voudrais qu'on prenne une dernière question au téléphone sonne ce soir et c'est celle de Cachou. Et pardon, Cachou, j'ai dit que vous étiez une femme tout à l'heure. Visiblement, vous êtes un homme et je suis absolument navré. Bonsoir.
Il
n'y
a pas de souci, C'est pas vexant d'être pris pour une femme à cause d'un prénom.
Absolument. Et, mais alors vraiment, mais comme je vous avais annoncé comme ça, je vous le dis, je m'en excuse. Et je vous souhaite la bienvenue sur Inter. On écoute votre question.
C'est très gentil, merci. Alors moi, je m'interrogeais en fait sur le diesel qu'on nous a imposé économiquement dans les années 80 et que maintenant, on n'arrête pas de nous bassiner en nous disant que c'est super polluant. C'est probable. Mais à l'origine, Monsieur Diesel, il a développé son moteur pour de l'huile végétale. Et je me posais la question de savoir si le projet, les émissions de l'huile végétale étaient aussi polluantes que le fioul qu'on met dedans actuellement. Parce qu'à mon avis, au pire, on risque juste de sentir la baraque à frites dans les rues, quoi, en utilisant de l'huile végétale. Et par ailleurs, au-delà du moteur électrique, il y a un autre moteur, d'autres propulsions qui sont existantes, notamment le moteur à air comprimé. On n'en parle pas.
Alors, on en parlait à l'instant. Merci beaucoup pour votre question, Cachou. On en parlait à l'instant, effectivement, Jean-Pierre Cornu, du moteur à air comprimé. Moi, ça m'intéresse ce qu'il dit au sujet du diesel, Cachou, et notamment de l'huile végétale.
L'huile végétale, il faut la fabriquer. Elle ne vient pas naturellement. On s'est rendu compte que tous les agrocarburants sur lesquels on a misé il y a 10 ans se révèlent catastrophiques sur le plan du bilan énergétique. Parce que pour faire du colza, il faut des engrais, il faut des tracteurs, il faut du pétrole. Et donc, globalement, on s'est rendu compte de l'effet induit, parce que tout ça est horriblement compliqué, c'est un système. Les terres rares que vous allez mettre en exploitation pour faire des produits destinés à la mobilité vont être soustraits de la production agricole. Résultat, on va faire augmenter le prix des terres et le prix des produits agricoles. Donc on ne les règle pas, les problèmes, on les déplace. C'est bien la grande difficulté de notre sujet. Parce que le vrai problème, c'est que pour bouger, il faut de l'énergie. Quelle que soit l'origine de cette énergie, elle a un coût économique, environnemental et social.
Vous n'avez pas de voiture, vous, Jean-Pierre Cornu, vous me disiez ?
J'en ai pas, alors je vais vous dire la vérité, j'en ai pas à Paris, mais j'en ai en Haute-Savoie où j'habite également.
Voilà, et vous Jean-Marc Jancovici, vous avez une voiture ou pas? Vous
êtes moi j'ai une voiture dans laquelle je monte 4 fois par an.
Ben voilà, écoutez, vendez-la, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et merci à tous d'avoir participé au Téléphone Sonne ce soir.